et construit le jeu comme personne, tel un architecte. C'est ce qu'Alfredo Di Stefano disait de Luis Suarez. Di Stefano, le deuxième ballon d'or de l'histoire, en 57. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un Argentin naturalisé espagnol. Le tout premier vrai espagnol vainqueur d'un ballon d'or, c'est ce Luis Suarez dont je vous parle. Aucun rapport avec Luis Suarez, l'Uruguayen mangeur d'oreilles. Luis Suarez Miramontes, dit Luisito, a lui aussi fait les beaux jours du Barça et faut remonter à la fin des années 50. Luisito Suarez est le maître à jouer des Blaugrana qui sont champions d'Espagne en 59 et 60, vainqueur de la Coupe des Villes de Foire en 58 et 60, c'est l'ancêtre de la Coupe de l'UEFA. Il est élu Ballon d'Or en 1960 en devançant Ferenc Puskás, le buteur du Real Madrid Pichichi de la Liga. France Football écrit alors « Suarez n'est pas un lutteur, il n'en a pas besoin. Il sait tout faire avec l'autorité d'un duc, la précision d'un géomètre et la beauté d'un Apollon. » Ce premier grand Barça de l'histoire est dirigé par Helenio Herrera, un entraîneur venu de France. Herrera est né en Argentine, de parents espagnols, mais il arrive enfant au Maroc et grandit dans ce Maroc colonisé par la France. Il fait toute sa carrière de footballeur en France, dans des clubs de Paris, notamment au Red Star. Il est appelé en équipe de France et une fois sa carrière terminée, il est dans le staff des Bleus. Ça, c'était avant sa grande carrière d'entraîneur et on racontera son incroyable histoire un jour dans Golasso. Bref, au Barça, sous les ordres d'Helenio Herrera, Luisito Suarez devient l'architecte, El Arquitecto Gallego, car il est galicien. Les deux vont ensuite bâtir le Grande Inter. Herrera est engagé par l'Inter et fait signer Suarez, qui devient le footballeur le plus cher de l'histoire à l'époque. Avec son étincelant chef d'orchestre, adepte de gestes techniques en tout genre, l'Inter est triple champion d'Italie et surtout double vainqueur de la Coupe des clubs champions en 64 et en 65. Ce sont les deux premières ligues des champions de l'Inter. Luis Suarez gagne même l'Euro 64 avec la Selección. C'est l'homme du match en finale et il passe tout près d'un deuxième ballon d'or. Bref, le mec est une légende. Il a ensuite entraîné trois fois l'Inter et a été le sélectionneur de l'Espagne à la Coupe du Monde 90. Mais pour le grand public, c'est Alfredo Di Stefano, la grande gloire du football espagnol, parce qu'il a marqué plus de buts et parce qu'il est la légende du Real Madrid. Alors que bon, il est donc argentin. Rendons hommage à ce Luis Suarez, Ballon d'Or 61, avec de la musique classique italienne, signée du milanais Giuseppe Verdi. 5 ballons d'or tombés dans l'oubli, c'est donc le sujet de mon épisode de Golasso aujourd'hui. J'ai commencé par l'Espagnol Luis Suarez, et Rodri lui a succédé au palmarès 64 ans plus tard, à l'heure où j'enregistre, je ne sais pas si Lamine Yamal est le ballon d'or 2025 ou pas. On continue cette plongée dans l'histoire, et on remonte pas trop loin, parlons du ballon d'or 86, Igor Belanov. Belanov n'est pas le meilleur joueur du monde à l'époque, c'est évidemment Diego Maradona qui a remporté la Coupe du Monde 86. Alors oui, pour rappel, jusqu'en 95, le Ballon d'Or couronne le meilleur joueur européen. Il n'y a donc pas Maradona au palmarès. Belanov n'est pas non plus le meilleur joueur européen. Michel Platini, triple Ballon d'Or en titre. Emilio Butragueño et le prodige du Real, Gary Lineker, a fini meilleur buteur de la Coupe du Monde. Mais Belanov est l'attaquant supersonique du Dynamo Kiev, champion du RSS et vainqueur de la Coupe des vainqueurs de Coupe en cette année 86, 3-0 contre l'Atlético.
Mexico. Mexico.
Quelques semaines plus tard, à ce Mondial 86 au Mexique, Belanov réalise un triplé magnifique en huitième de finale contre la Belgique. Ça, c'est son premier but. Ce triplé, ça le met sur le devant de la scène pour succéder à Platosch devant Lineker et Butragueño. À la quatrième place, on retrouve un latéral français, Manuel Amoros. Le souci pour Belanov, c'est qu'il ne va pas confirmer ensuite en Bundesliga à Mönchengladbach. À l'époque, c'est Moscou qui décide du sort des internationaux soviétiques et Belanov, on l'envoie dans une équipe allemande pas au top. Il n'y arrive pas et au lieu de rentrer en Ukraine tout de suite, il joue en Bundesliga 2. Vous l'avez compris, Belanov ne fait pas partie des grandes gloires des années 80, mais son style est détonnant à l'époque. On peut dire qu'Mbappé est un Belanov des temps modernes. C'est un grand athlète, rapide, il me ressemble un peu. Dixit Belanov lui-même. Aujourd'hui, Belanov a son école de football à Odessa, fait partie des dirigeants de la fédération ukrainienne et en 2022, lors de l'invasion de la Russie, il a rejoint les réservistes de l'armée ukrainienne. Force aux Ukrainiens, on entend là leur hymne national. C'est souvent lors des années impaires, sans Coupe du Monde ou Euro, on va retrouver des surprises, comme en 77, avec le couronnement d'un joueur qui est seulement connu au Danemark, à savoir Allan Simonsen. Tiens, bah c'est à Gladbach que Simonsen devient un crack du football en approchant des 30 buts par saison alors qu'il est un ailier droit d'1m65. Il est champion d'Allemagne 3 fois aux dépens du Grand Bayern et double vainqueur de la Coupe de l'UEFA. En cette année 77, Simonsen emmène son équipe allemande en finale de la Coupe des clubs champions. Il marque un but superbe face à Liverpool avant le succès des Reds. Mais Allan Simonsen est quand même élu Ballon d'Or avec 3 et 4 points de plus que Kevin Keegan et Platini qui jouent alors à l'AS Nancy Lorraine. C'est le scrutin le plus serré de l'histoire. De Bull devient El Pequeño Grande Danés, puisqu'il signe au Barça en 79, où il gagne Coupe du Roi et une Coupe des Coupes. L'arrivée de Diego Maradona le pousse vers la sortie, et Allan Simonsen choisit de signer en D2 anglaise, à Charlton, heureux de vivre à Londres et de profiter de la vie, aller à des concerts par exemple, ce qu'il ne pouvait pas faire à Barcelone. Le Danemark se qualifie pour l'Euro 84 et Allan Simonsen reste dans les mémoires en se faisant casser la jambe par Yvon Leroux lors de France-Danemark au Parc des Princes.
Je crois qu'il a très mal le petit Allan Simonsen. Il me semble que c'est très grave, mais apparemment c'est grave pour ce grand joueur qui est Allan Simonsen.
On a compris, Jean-Mimi.
J'ai peur qu'il y ait quelque chose de cassé.
Tout à fait, Thierry. Simonsen est oublié du grand public et il l'a bien cherché. Loin du star system, il se lance dans des aventures assez improbables en tant que sélectionneur des Féroé durant 6 ans, puis du Luxembourg. De retour au Danemark, Allan Simonsen participe à Danse avec les Stars. Il est nul, mais va jusqu'en demi-finale car tout le monde vote pour lui par SMS. Et aujourd'hui, la vie c'est pouvoir voyager, voir du foot, profiter tranquille, dit-il.
La vie de rêve.
On finit ce top 5, je vous laisse le soin d'établir l'ordre, avec deux grands joueurs des années 60. Je suis J.S. Gron, le podcast s'appelle Golasso, on revient sur l'histoire du ballon rond et ça me fait plaisir de vous faire découvrir ces ballons d'or tombés aux oubliettes. Après Joseph Mazopust, dit le chevalier du foot, puis Lev Yashin, l'araignée noire, seul gardien de l'histoire à être sacré ballon d'or, le troisième ballon d'or venu de l'Est se nomme Florian Albert en 67. Florian Albert, il a joué où lui? Dans un grand club européen? Dans un grand championnat? Bah non. Il a joué nulle part ailleurs qu'à Ferencváros. C'est l'un des clubs de Budapest du nom d'un arrondissement. Après la fuite de Puskás et Sándor Kocsis en Espagne, le régime communiste de Hongrie serre encore plus la vis. Et Florian Albert ne sera jamais libéré de son club formateur. C'est pas qu'il a juré fidélité à Ferencváros, non. On lui a interdit de signer par exemple à la Juventus, malgré la venue de Gianni Agnelli à Budapest. Quand le patron de Fiat débarque en Hongrie, tout le monde pense que le Turinois veut construire une usine. Mais il est venu recruter Florian Albert. C'est refusé. Vraiment, à l'époque, ça rigole pas en Hongrie. Les footballeurs sont tous payés le même salaire. Et pas beaucoup. Et les vedettes de la sélection ont seulement des avantages en nature, comme une grande maison. L'inarrêtable Florian Albert se fait d'abord un nom à la Coupe du Monde 62, au Chili. À 20 ans, il finit co-meilleur buteur du tournoi. Ferencváros gagne la Coupe des Villes de Foire en 65. 1-0 contre la Juve. Après avoir tapé la Roma et Man United. Sur le terrain, Albert, c'est un joueur offensif assez incroyable. Il remonte la balle à toute vitesse, décale ses coéquipiers, marque beaucoup de buts. Il fait des saisons à 30 buts. Albert est présenté comme l'une des stars du Mondial 66. En Angleterre, le leader offensif des Magyars réalise justement une performance magnifique contre le Brésil lors du premier tour. Victoire 3-1. Pelé est absent côté Seleção. Alors Goodison Park offre une standing ovation à Florian Albert. Quelques mois plus tard, Flamengo l'invite au Brésil. Il est accueilli en rockstar à jouer un derby contre Vasco en amical. Et on lui propose un contrat de 2 ans. La Hongrie refuse. On menace d'envoyer des membres de sa famille en prison. Alors le numéro 10 rentre au pays. Un champion du monde 66, Bobby Charlton, est couronné Ballon d'Or 66. Et 12 mois plus tard, Florian Albert est largement sacré Ballon d'Or 67. Bah oui, Beckenbauer et Eusebio n'ont pas gagné de Coupe d'Europe cette année-là. Albert, on lui a interdit aussi de signer chez Adidas pour donner son nom à une paire de crampons. Comme le Kaiser Beckenbauer, Albert est aussi surnommé l'Empereur en hongrois. Ça donne Sazar. Florian Albert se brise la jambe en éliminatoire de la Coupe du Monde 70. Pas de qualification pour la Hongrie. Fin de carrière de l'idole. Très attaché à son club, Florian Albert passe le reste de sa vie à Ferencváros en tant que dirigeant. L'Europe de l'Ouest l'oubliera au fil des décennies. Il est mort en 2011 à l'âge de 70 ans. Je vous parle d'un cinquième et ultime ballon d'or, à savoir le lauréat de l'année 61. il y a très longtemps, on est à la 6e édition de la récompense de France Football et on a la victoire d'un deuxième Argentin. Après Di Stéfano, un autre joueur formé à River Plate et couronné footballeur européen. Omar Sivori.
Messi, il s'appelle Messi.
Non, non, pas toi Omar. Omar Sivori. Sivori est d'abord champion d'Argentine avec River et vainqueur du Campeonato Sudamericano avec sa sélection. C'est l'ancien nom de la Copa América. Hein. La Juve offre un montant record pour le jeune prodige qui rejoint l'Italie à 22 ans. Mais la fédération argentine l'exclut pour son départ pour le vieux continent. En Serie A, c'est une immense réussite. Sivori enchaîne les saisons à 30 buts et la Juve est championne d'Italie à 3 reprises. Sivori forme le trio magico des Bianconeri avec Gianperto Boniperti et le gallois John Charles. En plus d'être sans pitié pour les gardiens adverses, Sivori fait très mal ballon au pied, c'est un petit dribbleur d'1m63, gaucher à la Maradona et Messi, il est adepte du petit pont, il virevolte sur le terrain, il fait honneur à la danse de son pays, le tango. Il affole toute l'Europe en marquant un septuplé contre l'Inter, c'est trop là. En cette année 61, Sivori devient international italien. Bon, en même temps, c'est un oriundo, c'est-à-dire qu'il a du sang italien. Et il est donc élu Ballon d'Or 61 devant notre Luisito Suarez. Il est le premier italien Ballon d'Or et aussi le premier Ballon d'Or évoluant en Serie A. Il y en aura 16 par la suite. Sivori joue la Coupe du Monde 62. Les Azzurri sont éliminés dès le premier tour et le sélectionneur suivant décide de ne plus appeler les Oriundi. Oups. Alors Omar Sivori, c'est aussi un sacré caractère. Il est notamment surnommé El Cabezon, la grosse tête. Parce qu'il pète parfois les plombs sur le terrain et en dehors. Après une embrouille avec le coach, Sivori quitte la Juventus 8 ans après son arrivée dans le Piémont pour poursuivre sa carrière au Napoli. En 1968, il agresse un joueur de la Juventus, prend 6 matchs de suspension et convoque la presse pour dire qu'il quitte l'Italie sur le champ. Il fait ses clics et ses claques en pleine saison. À 34 ans, il rentre au pays, c'est bon. Et il fait ensuite une belle carrière d'entraîneur sur le banc des grands clubs du championnat et il est sélectionneur de l'Argentine pour qualifier l'Albi Celeste à la Coupe du Monde 74. Mais juste avant le Mondial, en conflit avec le président de la Fédé, notamment pour le montant des primes des joueurs, il démissionne. El Cabezón. Au Mondial, l'Argentine prend 4-0 contre les Pays-Bas de Johan Cruyff et perd contre la Seleção. Omar Sivori en aura fait beaucoup pour son pays, l'Argentine, mais sans laisser une trace au sein du football européen, sauf à la Juve. En 2005, il décède à l'âge de 69 ans d'un cancer du pancréas. Fin de la musique. Luis Suarez en 1960, Omar Sivori en 61, Florian Albert en 67, Allan Simonsen en 77, Igor Belanov en 86. J'espère vous avoir fait découvrir ces 5 ballons d'or qu'on a clairement oubliés. Ce sont des grands joueurs qui ont fait l'histoire du football et je vous promets d'autres histoires folles de notre sport préféré dans notre podcast Golazo.
Golazo, le podcast football de sports.fr.